Bonjour, c'est Jean-Louis Cap. Chronozone, le temps immédiat.
Les Roms Clément, partenaire On The Rocks de Diomandé le Programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Chronozone présente Diomandé le Programme.
Now give me a beat.
Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie. Wake up. Depuis Los Angeles, la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique. Entre séries cultes et héros éternels. Let's go. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de récréado prennent voix. DLP, c'est maintenant. Diomandé le programme.
Toudou, DLP vacances, toudou, toudou, DLP vacances.
Un immense merci à ceux de nos 1 202 739 auditeurs français et francophones en moyenne hebdomadaire des Bahamas et de Libye, dont nous saluons la fidélité sans faille. Salut, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP Vacances pour le bonheur de vraies télémotions et le vivre de télémissions qui souvent se mirent dans la ligne de rire. Sa modestie lui fait dire qu'il a toujours, je cite, « juste su surfer sur la vague et être dans l'air du temps », fin de citation, cependant que seul le talent peut également expliquer telle carrière. Animateur TV, radio, star des années 80-90, producteur ayant eu signé quelques coups de maître cathodiques, cet enfant du rock anti-bof marqua de son empreinte un univers entre audiovisuel et politique. Il sera du reste notre invité le 23 juin prochain pour célébrer avec nous l'arrivée de l'été dans l'hémisphère nord et nous rappeler combien chacune de ses décisions professionnelles ne lui aura jamais donné tort.
6% de la population qui sont roux, maintenant c'est vrai qu'il y a certaines défiances.
Childéric Muller est notre dossier de la semaine. Notre hôte du jour est de ceux pour qui avoir raté le bac fut presque une bénédiction. Un paternel, Dieu dans son métier. Un ami de ce dernier producteur avisé, et voilà notre ado de l'époque doué de conviction. Doué est ce qu'il se révéla également être en tant qu'assistant réal de Nulle part ailleurs sur Canal à d'autres émissions de son palmarès idéal. S'il fait notamment partie de la formidable équipe de Jean-Luc Reichmann sur les 12 coups de midi, est aussi le réalisateur attitré des jeux du talentueux Cyril Ferraud, dont toujours le plus grand bien il dit. Entre une adorable maman script et donc un père reconnu, exigeant mais non strict, il se devait de garder le cap, menant un fort positif verdict.
Bonjour, c'est Ben Cap. Bienvenue dans Diomandé le programme.
Benjamin Ben Cap est l'invité de DLP Vacances. Auparavant, retour sur la carrière non chimérique et sans malheur de Childéric Muller, enfant du rock et de la télé des années 80-90, qui, d'Argenteuil à Marseille, via évidemment Paris, fut également agent d'artiste.
J'ai proposé un certain nombre de choses à la majorité, comme par exemple faire venir à Marseille le congrès qui s'intitule Le Rendez-vous et qui est le rendez-vous de tous les patrons de chaînes de télé du monde.
Dès ses années collège, le méridional d'adoption devint par la plume anti-bof par conviction. Lui et moi avions ainsi cela en commun, en plus d'avoir aimé Le Matin de Paris à l'époque, tandis qu'il recelait encore plus de rock en stock que de rats mastoc.
Ils vont venir maintenant, attention, c'est les avions!
Si je ne le connus, journaliste scientifique, la voix du lézard lui fut FM bénéfique, lui star radio depuis sa période Radio Star et contributeur de la naissance de Skyrock, autant qu'atout précieux pour Patrice Blanc-Francard.
Seul et à 3 millions d'années-lumière de chez vous. Pas de problème avec Skyrock. C'est aussi bien qu'à la maison.
Et si Childéric Muller évolua en presse écrite, il n'hésita à travailler dur en audiovisuel, y compris VSD, vendredi, samedi, dimanche, pour sa réussite. Celle-ci passa, entre autres médias, par RMC et TV6, pour celui qui, de la 5 à Antenne 2, fut un véritable roi du système 6. Même Philippe Vandel ou Jean-Luc Delarue y firent en jeune chroniqueur leur début, cependant qu'en icône de la carte jeune à 25 ans, il guida culturellement la jeunesse française vers un but.
Si tu paies le prix, t'as rien compris. Carte jeune.
D'animateur à producteur, toute la ville en parle du changement de cap du chéri chéri du paf, dont le pif derrière la caméra avec tant de crédit le conduisit même aux commandes françaises de la société australienne Reg Grundy.
J'appelle notre chéri numéro 8 Victor.
Il aimait avoir ses animateurs poser 100% questions lors de grands codes de la route ou de grands examens, D'autant que lorsque Childéric Muller possède « Question pour un champion » en réponse aux échecs d'audience, c'est bien parce qu'il garde la main.
Bonjour à tous, c'est 100% question.
À Durmander le programme le 23 juin prochain, Naya et moi serons ainsi particulièrement fiers d'accueillir Childéric Muller au Rockumentaire culte et loin d'être rudimentaire. Pour conclure, s'il y a plus de 20 ans avec YTV, Childéric produira Vaille que Vaille en télé avec François Bayrou et le Modem seront connectés en politique et en vision sociétale idem.
C'est effectivement un symbole qu'un démocrate peut-être devienne le président d'une puissance majeure dans le monde.
Bref, Childéric Muller demeure à vie un producteur animateur pop, culte et rock'n'roll qui pour tout ou partie de l'ancienne jeunesse française est resté une idole.
George Michael, vous vouliez qu'il soit dans l'émission, nous aussi. Il pouvait pas venir sur le plateau, alors on le retrouve dans la loge.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus les amis dans 100% Logique, le premier quiz qui ne teste ni votre culture générale, ni vos connaissances, mais uniquement votre logique.
Bonjour Ben Cap.
Bonjour David.
C'est vrai que j'aurais très bien pu dire Benjamin, mais c'est quand même tellement plus sympathique, tout le monde t'appelle Ben dans le milieu, notamment depuis ces 12 dernières années.
Eh oui, et puis on m'appelle Ben même depuis la maternelle, si tu veux tout savoir.
Ah ben voilà, on saura tout. Merci en tout cas Ben d'avoir accepté l'invitation de DLP.
Bah merci à vous de m'avoir invité, je suis honoré, ça me fait vraiment plaisir.
Cap, quand je dis Ben Cap, pourquoi ai-je le sentiment de connaître ce nom ? On va savoir pourquoi, et particulièrement dans mon cas depuis 30 ans, j'ai un copain réel sur la place de Paris, très connu, hein, qui s'appelle Jean-Louis Cap. Y aura-t-il quelques rapports ? Quelques liens de parenté lointains ?
Lointain, on peut pas dire ça, vu que c'est mon papa.
Oh ! Allons bon !
Oui, c'est mon papa, Jean-Louis Cap. J'ai cette chance, effectivement.
C'est pas vrai ?
Ouais, oui.
Comment Naya et moi, on a fait pour te joindre ? Ah ben, c'est peut-être par rapport à Jean-Louis, alors.
Je crois que vous vous êtes contactés avant, tous les deux, et t'as refilé mon numéro. Moi, il me semble que c'est ça.
Ceci explique cela. Jean-Louis, ton père qui nous a fait l'amitié d'être notre invité le 7 avril dernier, et nous l'embrassons, évidemment, tous les trois, j'imagine. Naya, toi et moi.
Je l'embrasse très fort et je vais même passer la soirée avec lui. Donc je l'embrasserai pour vous encore plus fort ce soir.
C'est très gentil. En tout cas, Benjamin, on est très heureux de t'avoir aujourd'hui pour la dernière de ce DLP Vacances avant l'été. Déjà 25 ans de carrière d'ici l'an prochain. Peut-il, selon toi, y avoir meilleur apprentissage pour un assistant réalisateur à l'époque, car depuis on rappelle que tu es devenu réalisateur, que nulle part ailleurs en général et nulle part ailleurs à Cannes en particulier, heureux Vénard.
Ah oui, tu peux le dire. Je pense que nulle part ailleurs, en termes de formation dans ce métier, c'était vraiment l'émission où tu rencontrais un peu tous les styles de la télévision actuelle. C'est-à-dire qu'on avait à la fois un talk show animé par Philippe Gildas, Antoine Decaune, avec des invités où on était dans des talks un peu culturels, un peu artistiques, parfois politiques.
Absolument.
On avait des sketchs.
Écoutez Simone, asseyez-vous et ne gesticulez pas trop parce que vous êtes vraiment mouillé. Hein.
Alors,
merci Antoine.
Merci.
On avait aussi un JT tous les soirs, un JT qui est une discipline très particulière en réalisation télé.
On va en profiter pour citer Annie Lemoine et la merveilleuse Daphné Roulier.
Les éleveurs déjà durement frappés par la crise de la vache folle ont peur, ils redoublent de vigilance.
Ouais, j'ai côtoyé les deux sur cette émission, c'était vraiment des femmes
exceptionnelles
avec une culture et un niveau intellectuel très avancé. Donc j'ai appris beaucoup de choses sur Nulle part ailleurs à tous les niveaux. Après, il y avait aussi les nuls, j'ai quand même travaillé avec les nuls à l'époque.
Et oui.
Chaba, Bruno Carrette, PA son âme.
Oh, tu as connu Bruno.
Putain, l'enfoiré, il aurait pu prévenir.
Quoi ?
L'envin, putain, il nous fout tout en l'air, cet enfoiré.
Il vient pas.
Il est pas venu ?
Pire. Il a une putain de moustache, je vous dis pas.
Dominique Farrugia, avec qui après j'ai collaboré de longues années quand il était devenu producteur.
Ouais, et sans doute sur Comédie.
Exactement.
Merci d'être là, merci de me recevoir. Bonsoir et bienvenue à la grosse émission.
Donc, nulle part ailleurs, on avait à la fois du talk, des sketchs, on avait des JT, on avait de la musique en live avec des groupes incroyables.
Et quelle musique !
I don't know, I'm feeling like Prince tonight. I'm going down.
On a eu vraiment toutes les stars de l'époque internationale et française, avec notamment, je sais pas si tu connais, Stéphane Saunier à la programmation, qui était le monsieur musique de Canal+.
Oui, Stéphane Saunier. Bah oui, il était hyper respecté. Je pense que Stéphane Saunier a été à la programmation musicale en tant que mec, ce que Nathalie André sera devenue par la suite pour les nanas.
Exactement. Alors avec en plus un côté que j'aime bien chez lui, très rock'n'roll, a déniché à la fois des stars internationales, on a eu Prince, Sting, Madonna, des stars immenses, à la fois il nous a amené des petits groupes du Texas qui jouaient de la country rock, c'était surréaliste, des barbus tatoués de partout.
Des ZZ Top, mais sans être aussi connus qu'eux, quoi.
Voilà, des ZZ Top dans le fin fond du Texas, donc vraiment des phénomènes.
Stéphane Saunier, ça fait plaisir d'entendre ce nom.
Un grand, grand monsieur de la télé. Et donc, nulle part ailleurs, pour revenir à ça, je pense que c'est vraiment, vraiment l'émission qui, à la fois, m'a formé à tous les styles télévisuels, mais en plus, m'a donné une envie de percer dans ce métier, mais depuis toujours, quoi. C'est vraiment l'émission phare.
C'est génial. Alors, avant qu'on remonte à la genèse de ton métier, je voudrais que tu nous parles deux secondes de Nulle part ailleurs à Cannes. Sincèrement, les gars, vous faisiez fort, quoi. C'est un sacré barnum, en général, à Paris, mais alors à Cannes, laisse tomber, quoi.
Écoute, je pense que chaque année, on descendait à peu près entre 300 et 350 personnes.
C'est incroyable.
Spécialement pour Canal+, entre les gens qui travaillaient sur les marches pour faire téléfestival et nous qui étions sur le plateau de Nulle part ailleurs en face du Martinez.
Martinez, absolument.
Avec le barnum, comme tu le dis, c'était vraiment une aventure chaque année. On partait pour deux semaines et demie.
T'avais quel âge en plus à l'époque? T'étais encore gamin, si je puis dire.
Bah, c'est ma deuxième expérience. En fait, je suis rentré avec mon père sur une autre émission avant et j'ai aimé tout de suite. On en reparlera après, mais il m'a mis stagiaire assistant réel sur Cannes, justement.
Ouais.
La première fois que je suis rentré sur Nulle part ailleurs. Écoute, c'était il y a 25 ans, donc ça devait être en 97, 98 par là.
Et t'avais, il me semble, donc à peine 20 ans.
20 ans, 20 ans.
Incroyable.
Ouais, ouais, ouais.
Hein, franchement. Je ne te demanderai pas l'aspect plus privé de la vie cannoise, n'est-ce pas? Je veux juste imaginer que tu regardes de très heureux souvenirs.
Ah, évidemment.
Il faut bien que jeunesse se passe, n'est-ce pas?
Tu commences à 14h sur la plage avec le soleil, les répétitions. Tu finis à 21h et tous les soirs, ça commence par un apéro au bord de la mer avec toutes les stars qui étaient invitées sur l'émission. Donc voilà, et ça se prolongeait tard dans la nuit sur des soirées de films. Donc c'était vraiment des moments assez incroyables.
C'est extraordinaire.
Petite anecdote, ouais. Canal avait une boîte de nuit et moi, je découvrais ce monde. Le deuxième soir, mon père me dit « Rejoins-moi à la boîte de Canal où tout le monde était invité tous les soirs. » Et je rentre dans la boîte, évidemment, étant le fils de Jean-Louis, je cherchais mon père, et tout d'un coup, mon père me fait signe, il était à une table, avec ma mère « Viens, viens, Ben !» Donc j'arrive, et je me retrouve face à Alain Degreff, Pierre Lescure,
ouais.
Mon papa, ma maman, et en face d'eux, Abel Ferrara et Robert De Niro.
Oh là 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 là.
On me dit « Joins-toi à nous et bois un verre, Ben !»
Juste comme ça.
Moi qui parlais à peine anglais.
Et j'espère qu'au moment où ils t'ont tous dit de te joindre à eux, tu les as regardés en leur disant « Are you talking to me ?»
J'ai dû dire quelque chose dans ce sens-là, mais je ne me rappelle plus, je t'avoue. C'était un moment, j'ai eu les frissons, parce qu'en plus, Robert De Niro, c'est l'un de mes acteurs préférés de tous les temps.
Mais quel monstre sacré, quoi. Lui et Al font partie des meilleurs. Al Pacino, bien sûr. Hein.
Bien sûr, j'avais compris.
Comme nous sommes entre nous, n'est-ce pas? Et qu'on est un peu à Cannes, dans l'ambiance. Je me permettais les prénoms.
Ah bah, carrément, là-bas, on est tous entre nous.
Alors dis-moi, tiens, remontons deux secondes à tes débuts. Eh, vraiment, moi, je dis chapeau bas pour un jeune qui, à l'époque, a finalement renoncé à aller jusqu'au bac et qui a préféré se tourner vers les caméras.
Bah, écoute, l'école, on va pas se mentir, j'étais pas vraiment fait pour ça. J'ai raté mon bac de peu et du coup, mon père s'est dit, tiens, qu'est-ce qui t'intéresse? Et j'ai dit, écoute, papa, ton métier m'a l'air intéressant.
Eh oui.
Essayons de faire des études. Donc, il m'a placé dans une école privée à Paris, l'IFCA. Et du coup, j'ai fait des années après le bac d'études cinéma.
C'est bien de trouver sa voie.
C'est vrai que dès la première année, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Au milieu de la deuxième année, mon père m'a trouvé un stage sur une émission pendant des vacances et j'ai été faire ce stage et je suis tombé amoureux. J'ai carrément arrêté l'école et il m'a fait rentrer du coup à la suite à Nulle part ailleurs à Cannes.
C'était quoi cette émission? C'est ça qui nous intéresse.
Ah, alors ça, c'est un très grand souvenir aussi.
Grand coquin.
Alors en fait, je faisais des études de cinéma.
Ouais.
Mon père me dit, viens faire un stage télé, tu verras, c'est pas pareil, mais tu y apprendras des choses. Donc il me met assistant accessoiriste stagiaire.
Ouais.
J'étais avec une équipe de frères, ils étaient quatre frères, ils étaient accessoiristes et l'émission était très simple. Ça s'appelait Chéri Chéri.
C'était
Pascal Brunner, paix à son âme.
Ah, Pascal Brunner, mon Dieu.
Ouais, 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 ouais.
Avec nous, Laurent, ils deux, il faut faire un choix. Je prends Laurent.
Et donc, l'idée était simple. Pascal Brunner animait cette émission.
D'accord. Avec ses imitations, j'imagine, déjà.
Déjà. Et il recevait à chaque prime, puisque je crois que c'est des primes ou des deuxièmes parties de soirée, 10 hommes qui avaient entre 18 et 30 ans.
Ouais.
Et qui venaient se présenter devant un public exclusivement féminin.
Mon Dieu. On rappelle que c'était à peu près ton âge, à ce moment-là, 18-19 ans.
Voilà. Les jeunes filles dans l'audience avaient entre 18 et 30 ans. Venaient, parce que briefées par la production, en tenue de soirée chic. On leur servait à chacune à des tables des bouteilles de champagne pour qu'elles puissent boire toute la soirée.
Ah, mon Dieu. C'était donc du vrai champagne, on est d'accord, hein. À consommer avec modération, mais peut-être pas à l'époque en tout cas.
À l'époque, il n'y avait pas les mêmes règles.
D'accord.
On fumait sur les plateaux aussi d'ailleurs.
Et oui.
Et donc, ces DJ gentlemen, j'ai envie de les appeler comme ça,
ouais,
remplissaient des épreuves, qu'elles soient physiques, intellectuelles ou autres, et à chaque fin d'épreuve, les filles votaient dans le public et ces jeunes hommes se mettaient suspendus au-dessus d'une piscine avec des trappes et celui qui était éliminé tombait dans la piscine.
Tombait, d'accord.
Voilà. À la fin de l'émission, il ne restait plus qu'un seul,
eh oui,
qui
forcément
gagnait donc le jeu et qu'on appelait le chéri-chéri. Et les jeunes filles qui avaient participé à 3 heures ou 4 heures d'enregistrement à l'époque, à la fin, elles avaient un peu la chaleur en elles. Si tu veux, elles avaient bu du champagne.
Forcément, entre le champagne et les 4 heures de tournage.
Et ces 10 messieurs qui se dénudèrent, remplissaient des épreuves physiques.
Après le combat de cap et d'épée, nous avons affaire au rodéo. Voici le chéri numéro 8, Victor.
Donc elles étaient dans une envie de festoyer, si tu vois ce que je veux dire.
Oui, et c'est marrant car dans festoyer, il y a toyer.
Oui, exactement. Et donc, moi j'étais le plus jeune de l'équipe.
C'est ça.
Et le producteur, à chaque fin de tournage, parce qu'à l'époque en télé, il faut savoir que nous avions des fêtes à chaque fin d'émission. C'était la règle.
Génial. Un peu comme au cinéma finalement.
Exactement.
Mais sauf que c'était plus régulier forcément.
Bah oui, je me rappelle, on faisait 2 tournages en 4 jours, bah il y avait 2 fêtes.
Autant d'audience en ce qui concerne toutes ces jeunes femmes, un peu pompette.
Alors le truc, c'est qu'on pouvait pas amener tout le monde. Et donc du coup, mon rôle était d'aller sélectionner les 20 plus sympathiques.
Mon Dieu.
Donc c'était moi qui étais quand même la personne qui les faisait rentrer dans les soirées télé.
C'est ça. Et je n'ose imaginer ce que l'on entendait à l'époque par sympathique.
Ah ouais.
Alors je sais que ça pourrait choquer les féministes aujourd'hui, mais je présume que ça passait avant tout par le côté très sexy. Voilà quoi.
Je n'avais que 19 ans, excusez-moi. Aujourd'hui, je préfère discuter.
Tu ne pensais pas qu'avec ta tête.
Oh, si on peut dire, effectivement.
Enfin, en tout cas, pas avec ton cerveau, on va dire.
Et donc, tu comprends pourquoi, après cette expérience sur cette émission, j'ai dit à mon père le soir même, « Papa, j'ai découvert ma voix. »
Alors Ben, toi qui fus donc, à tes débuts, assistant réal, quel est le petit plus à se retrouver aux commandes, donc là en tant que réal, d'un show télévisé ou d'un événement filmé?
En fait, tous les métiers, assistant réalisateur, script, truquiste, cadreur, monteur, tous ces métiers-là sont des métiers qui viennent pour fabriquer le produit.
D'accord.
Alors que lorsqu'on est producteur, réalisateur, on est à la base et on est dans la création du produit en amont. Et en gros, ça change complètement. C'est-à-dire que moi, je pensais en assistant être capable très facilement de passer réalisateur parce que croyant connaître les moyens de fabrication d'une émission.
Mm-hmm.
Et en fait, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que quand tu es en préparation d'une émission et tu la crées avec un producteur pour une chaîne, tu es vraiment sur toute la partie intellectuelle et recherche de comment mettre en image un produit qui est sur un papier.
Eh oui.
Donc ça n'a rien à voir.
Finalement, le passer en 3D, ai-je envie de dire.
Exactement.
Ce qui est tout aussi d'ailleurs excitant, j'imagine. Hein.
Ah mais ça t'ouvre vraiment l'esprit sur comment on en est arrivé là sur le jour du tournage.
Et voilà.
T'as plus la même relation avec le produit en fait. Il y a même à la fin, en assistant, il y a beaucoup d'émissions, j'y allais juste pour faire de l'argent. Aujourd'hui, en réal, toutes les émissions où je vais, comme je suis souvent à la conception,
mm-hmm,
tu viens un peu travailler avec ton bébé. C'est toi qui l'as mis en image.
Exactement.
C'est toi qui l'as créé, donc c'est plus du tout la même chose.
Alors Ben, tu es désormais, depuis quelques mois, il me semble, l'un des réals du team des 12 coups de midi. Alors d'abord, félicitations, tant qu'à faire.
Bah, merci David, merci.
Alors comment est-ce précisément de travailler avec le formidable Jean-Luc Reichmann? Et un réal a-t-il une aussi grande liberté de création sur un jeu par rapport, par exemple, à une émission comme Nulle Part Ailleurs?
Pour répondre à la première partie de la question, Jean-Luc Reichmann, ça fait je ne sais combien d'années qu'il est le roi du jeu sur TF1.
Tu m'étonnes.
Quand même le seul à avoir encore cet audimat incroyable.
Vous en êtes à combien à peu près maintenant?
En moyenne, c'est 31% sur la ménagère tous les jours. C'est exceptionnel.
C'est génial. Nous rappellerons qu'on dit désormais femme responsable des achats. C'est tellement plus marketing.
Ouais, moi j'ai été élevé à l'époque rock'n'roll Nulle Part Ailleurs, ça restera
la ménagère de moins de 50 ans. Terme que j'adore également.
Tu vois, ça nous est de mourir de rire les premières fois, on nous a parlé de ça.
Mais tu m'étonnes. 31% quand même, un tiers de l'audience, en tout cas sur cette cible, c'est extraordinaire.
Ouais, donc j'ai eu l'honneur de rentrer maintenant depuis 6 mois sur l'émission. Et oui, j'ai découvert Jean-Luc Reichmann, alors je le connaissais de réputation.
Ouais.
Mais effectivement, ça fait partie de ces animateurs bruts qui sont sur un plateau, ils savent exactement tout ce qui se passe à n'importe quel moment, ils ont l'œil partout, ils sont en train d'animer, de divertir, de faire leur jeu.
Et de faire leur job de producteur.
Exactement, des Nagui, des Ferro, des Reichmann qui regardent la réalisation, qui regardent les lumières. Alors Ferro Junior, puisque lui, il est beaucoup plus jeune. Mais Nagui, Reichmann, c'est quand même des montagnes.
Et oui.
Avec Jean-Luc, j'ai appris une nouvelle façon de faire du jeu. Lui, c'est ce qu'il t'explique et il me l'a fait comprendre. Il n'est pas que dans un jeu. Il est aussi dans une émission où à un moment donné, on est à une heure où on vient pour divertir et être le reflet de la société. Il ne fait pas qu'animer dans la mécanique d'un jeu, il joue aussi un rôle.
Surtout qu'il adore être comédien également, on rappelle. Hein.
Voilà, bah, avec Mattei, on le sait. Et du coup, il joue un rôle, il se met à la place du téléspectateur et vit son jeu comme quelqu'un qui serait chez lui et qui le regarderait.
Et c'est vous qui faites ça toute seule ?
Oui.
Mais j'adore l'idée !
Alors pour le coup, ça va te permettre de mieux répondre à la seconde partie de ma question parce que j'ai envie de dire que grâce à cette mécanique, tu te sens moins coincé dans la réalisation de ce jeu précisément.
Ah non mais complètement, je suis devenu un peu spécialiste des jeux, j'en fais beaucoup. Le jeu, c'est très intéressant parce que contrairement à tout le reste, tu dois te plier au fait que ton jeu doit être compréhensible et que surtout les gens chez eux doivent jouer en même temps que la personne qui est sur le plateau.
Oui, sur le plateau, le candidat, absolument.
C'est ça, donc c'est pas comme un talk où tu vas faire des beaux plans pour illustrer les propos d'une personne qui est interviewée ou encore mieux dans une émission musicale où là tu vas, toi et ton envie de créativité, filmer les artistes de telle ou telle manière et tu fais exactement ce que tu veux. Et après, ça plaît ou ça plaît pas ce que tu retranscris. Par contre, en jeu, tu n'as pas le droit de faire ça.
Sans mauvais jeu de mots, tu es un peu soumis aux règles du jeu, en gros.
Exactement. Par contre, c'est une discipline hyper intéressante en réel, notamment pour les préparations. C'est que tu as beaucoup de prépa sur un jeu, notamment une quotidienne ou un prime, mais tu ne peux pas te rater.
Et oui, a fortiori, parce que vous en tournez jusqu'à combien par jour ?
Jean-Luc Reichmann, on en fait 5 par jour parce que lui, comme il veut beaucoup de contenu et de divertissement, c'est 1h30 par émission.
D'accord.
Et Cyril Ferraud, le duel en famille, on en fait 10 par jour.
La Vendée va tenter de décrocher 2000 euros et vous, vous allez tenter de gagner maintenant 5 fois plus.
Alors Ben, tiens, précisément de toutes tes réalisations pour la télévision française, de laquelle demeures-tu à ce jour le plus fier ?
Ah, c'est compliqué.
Ah, je veux bien le croire.
Bah ouais, comme je te l'expliquais à chaque émission, surtout quand tu l'as mise en place, c'est un peu ton bébé.
Alors on va peut-être parler de coup de cœur éventuellement.
Coup de cœur. Il y a eu mon premier gros prime TF1 de divertissement. C'était Ce soir on chante les 100 plus grands titres de l'année avec un plateau incroyable. Céline Dion, Katy Perry, toutes les stars françaises et quelques stars internationales.
Ah oui.
Pour le coup, c'est les grosses machines divertissement de TF1. Là, t'as des moyens, t'as la pression.
Eh oui, la pression. Et puis on attend avec impatience 9h05 le lendemain matin.
Là, l'audimat prend toute son importance, c'est sur ces émissions-là. Donc là, c'est des moments inoubliables. Une émission dont je suis très fier, c'est Culture Box, l'émission.
Oh, ben oui, voilà, Daphné Burki, notamment.
Ouais, elle est arrivée à un moment où tout le monde était en grande déprime, et notamment les artistes, et on a remis un peu de joie pour tous ces gens intermittents comme moi.
Eh oui.
Qui avaient besoin de quand même pouvoir jouir de leur art.
Bien sûr. Une très belle idée, ça, le concept Culture Box France Télévisions, sincèrement.
Ouais.
Culture Box, l'émission, une scène ouverte tous les soirs pour tous les amoureux du spectacle vivant, pour tous les artistes de tous les univers.
Qui devait être éphémère et finalement, ça a perduré parce que monsieur le président Emmanuel Macron a trouvé que ça rendait une belle image du service public et il a eu raison. Et grâce à ça, j'ai fait la fête de la musique à l'Élysée.
Oh !
Ouais, ouais, en direct.
Ça, c'est cool !
En direct de l'Élysée avec un discours d'Emmanuel Macron au début qui présentait la soirée, remise de médaille à monsieur Jean-Michel Jarre. Et donc Jean-Michel Jarre avait carte blanche, il a fait venir Céron avec lui ce soir-là.
Génial.
3 jeunes artistes de la nouvelle génération électro. Et on a fini par un mini-concert de Jean-Michel Jarre avec ses tubes.
L'Élysée se transformant en boîte de nuit géante.
En boîte de nuit et moi en direct sur Culture Box, la chaîne que j'ai montée avec cette émission.
C'est excellent.
Les artistes qu'on va recevoir à présent avec vous dans les canapés. Et...
Depuis l'Élysée, le président Jean-Michel Jarre qui quand même m'a fait vibrer dans mon enfance.
Non, tu crois ?
Bah, c'était quand même assez grandiose. Très grand souvenir.
Waouh. Alors, mon cher Ben, tu me confiais hors antenne avoir, et là je te cite, le meilleur papa du monde. Ça m'avait touché quand tu l'avais dit. Alors pour le coup, Ben, quelle reste pour toi votre plus belle collaboration professionnelle ? Même si j'en ai sans doute une petite idée par rapport à notre première question.
Bah oui, je pense que dans mon histoire télévisuelle, la plus grande émission, ça restera nulle part ailleurs.
Imposant son phallus tyrannique à la sphère de ma langue. Si, parfaitement.
Je peux bien le croire, forcément. Et notamment avec papa.
Et maman. Maman est en script.
Ah mais oui, c'est vrai. Rappelle-moi son prénom, qu'on l'embrasse quand même.
Bernadette.
Bernadette, on vous embrasse également. Mais oui, c'est une vraie histoire de famille.
Ah oui, bah ça tournait au spectacle parfois, car mon papa était réalisateur, ma mère script. Ils étaient tous les deux en régie. Moi, j'avais le casque relié à eux depuis le plateau, mais tout le monde m'entendait en régie. Et des fois, on assistait à quelques scènes familiales mémorables. Je te laisse imaginer.
On rappelle que la script, c'est la tenancière du temps, donc c'est important pour un réalisateur.
Ah oui, c'est son bras gauche, effectivement. Mon père nous avait baptisé la PME, père, mère, enfant. Voilà.
C'est mignon. Je reconnais bien là, bonjour Louis.
Nulle part ailleurs étant le plus beau souvenir qui me restera gravé à tout jamais avec mes parents et mon papa d'amour.
Waouh. Merci pour cette première partie d'interview riche vraiment d'anecdotes savoureuses et qui nous permet de mieux savoir pourquoi Ben Capp risque encore longtemps de perpétuer la tradition des caps dans la réalisation. Tu ne sembles pas prêt de vouloir arrêter, hein?
Ah non.
En revanche, maintenant, on veut bien découvrir pour conclure le téléspectateur Ben Capp, si tu le veux bien, ok?
Avec plaisir.
Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement?
Écoute, pour me rappeler mon enfance, ma jeunesse, Le Prince de Bel-Air avec Will Smith.
Oh!
Ben, c'était vraiment quelque chose que je loupais jamais.
D'accord.
Et plus récemment, The Walking Dead. Je trouve que dans la psychologie humaine atroce de cette série, on retrouve bien un peu ce qu'on vit en ce moment, dans ces moments où chacun est un peu seul et ne pense pas aux autres.
Individualité, exactement. Tiens, revenons un peu, pour le coup, à ton enfance. Indépendamment de Will, qu'est-ce qui te plaisait le plus dans cette sitcom familiale?
Écoute, on va pas se mentir, hein, mon papa a vraiment réussi sa vie, donc il était plutôt aisé.
Et il n'y a pas de honte ni de malas, ça on le rappelle. Hein.
Oh, non, évidemment. Par contre, mes parents sont des vrais gauchistes, de base.
D'accord.
C'est des gens de mai 68 qui se sont battus, ils sont partis de rien,
et ouais.
Ils ont fait leur vie tous les deux, ils ont réussi tous les deux, mais ils ont toujours gardé...
Les pieds sur terre.
En tête, la chance que c'est d'avoir un pays où on peut aider les gens qui n'ont pas d'argent et ceux qui ont de l'argent d'en donner.
D'accord.
Et ils m'ont toujours élevé dans des quartiers vraiment populaires. C'est un peu Le Prince de Bel-Air à l'inverse. C'est-à-dire que moi, tous mes potes, c'était Will Smith et moi, j'étais un peu son cousin.
Ok. Tu étais Carlton, d'accord.
Alors, Carlton, sauf que moi, j'étais plus dans la dégaine.
Tu étais Carlton dans le look Will Smith.
Voilà, c'est un peu ça. Mes copains étant tous des Will Smith, on avait cette petite bande et c'est ça que j'ai adoré. Je me suis rendu compte à cette époque-là, alors que j'avais cette gêne, quand j'étais plus jeune, de ce côté où moi, j'avais de l'argent, alors que habiter dans des 20 mètres carrés à 4 ou 5,
yeah, ouais.
Galérait même les parents pour avoir assez d'argent pour s'acheter à manger à la fin du mois.
C'est beau ce que tu dis.
Voilà, et on avait réussi à se créer cette petite famille. Et mes parents, c'est ça qui était génial, c'est que tous mes potes venaient tout le temps à la maison.
Waouh.
Et ils avaient le droit de profiter de la maison.
On va continuer la métaphore. Tes potes jouaient à jazz.
Ouais, exactement, c'est ça.
Ah, c'est excellent.
Et pourquoi tu parles comme ça?
Yo, tu me la joues pile, prince.
Quoi? Jazz? Dis-moi qu'il s'agit d'un cauchemar.
Ah, ça me touche beaucoup ce que tu es en train de dire.
Et c'est pour ça que cette série, pour moi, c'était le reflet de ce que je vivais un peu avec mes potes, quoi.
Même question, mon cher Ben, mais pour les dessins animés.
Bah, c'était Dragon Ball, hein. On va pas se mentir, je ratais aucun Dragon Ball. Je voulais trouver les 7 boules.
Termine ta phrase, parce qu'après tout ce que t'as dit au départ, là, concernant chérie, les 7 boules de cristal, merci.
De cristal, évidemment, évidemment.
Moi, j'aimais bien Krillin.
Ah ouais, mais complètement, mais tous les personnages, dès qu'il y avait un nouveau méchant qui arrivait ou un nouvel allié, ils étaient fabuleux, c'était incroyable.
Toi et moi, s'il y a un nom sur lequel on sera forcément d'accord, c'est Tortue Géniale.
Ah bah Tortue Géniale, ça oui, on s'en rappelle forcément.
Quel cochon quand même.
Dès qu'il y avait une fille, il était complètement fou.
Et notamment, c'est le cas de le dire, sans mauvais jeu de mots, Bulma. Enfin, Bulma, je veux dire.
Bulma.
Ah, voilà la salle de bain. Et maintenant, je vais passer dessous.
Dragon Ball, la lutte finale des 7 boules de cristal venues des étoiles.
Excellent.
Ouais, et puis comme mon fils s'y est mis maintenant, puisque c'est revenu à la mode, donc ça m'a rappelé aussi beaucoup de souvenirs.
C'est vraiment génial. Alors, bah tiens, toi qui travailles énormément avec des animateurs et des animatrices, quel animateur ou animatrice, bien sûr, kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé?
Gildas de Conan, un de l'époque. Michel Drucker et Jean-Pierre Foucault, quand même deux énormes messieurs de la télévision.
Oh, bien sûr.
C'est les deux qui m'ont impressionné quand je suis arrivé sur un plateau en tant qu'assistant à l'époque.
D'accord.
Je vais faire quelques émissions avec Sébastien, avec Patrick Sébastien.
C'est bien.
Je fais quelques samedis, là, bientôt.
Et aujourd'hui, évidemment, Jean-Luc Reichmann qui m'a donné la chance de rentrer dans son équipe. Mais bien sûr, mon coup de cœur, c'est Cyril Ferraud. Je suis le réalisateur de Cyril Ferraud, voilà.
Et ça vous fait désormais combien d'années de collaboration professionnelle, Cyril et toi?
Écoute, on attaque la 4e année et vraiment plus les années passent et plus je sens que notre complicité, notre travail commun est vraiment agréable et intéressant.
Bienvenue chez vous. Pendant une heure, les jeux sont à vous. Duel en famille d'un côté.
Un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice de journal télévisé favori?
Bah, c'est vrai que tu m'as rappelé Annie Lemoine à l'époque.
Et oui.
Mais dans Baladur et sur le plan.
C'est pas moi. C'est Monsieur Van Damme, c'est faire l'acteur, il n'y a pas de problème.
Les JT de l'époque, c'était quand même autre chose. Si tu remontes avant, il y a des Mourouzi, des Incontournables.
Bien sûr.
Aujourd'hui, tout ce qui est BFM, ITL, je commenterai même pas.
Ouais, ouais.
Sur TF1 et France 2, ça n'a plus la grandeur de l'époque.
D'accord. Et enfin, mon cher Ben, tout genre confondu, quel est le nom de ton programme favori de tous les temps? D'abord en tant que téléspectateur et ensuite en tant que réalisateur.
Eh ben écoute, tu le sais, en tant que téléspectateur, ça restera mon premier amour, nulle part ailleurs.
Eh oui.
Nulle part ailleurs forever, j'ai envie de te dire.
Eh bien sûr.
C'est vraiment élégant, hein.
Mais les clowns, c'est fait pour rire, monsieur Gildas. Eh oui. Moi aussi, je m'en une
bière. Oh, ça pue la bière, c'est la vraie bière en plus.
Et après, en réalisateur, Gérard Pulcino avec Taratata, il a fait fort.
Voilà une belle réponse et qui lui fera plaisir en plus. Taratata qui a fêté ses 30 ans le 10 janvier dernier.
Ouais.
Et on a eu à Jean-Denis depuis 30 ans avec toujours la même équipe de Taratata.
Avant de conclure, il y a une autre émission de Gérard et de Nagui dont j'ai envie de te faire parler parce que je suis certain, vu ton âge, que tu l'as autant kiffé que Naya et moi. Et ça tombe bien, la boucle sera bouclée avec ton ami Jean-Luc Reichmann. C'est évidemment, n'oubliez pas votre brosse à dents.
C'était un concept assez fou. Et puis je vais te dire, c'était une époque où je regardais plus trop la télé, j'étais plus à sortir avec mes potes.
Enfin, tes potettes.
Ouais, ils ont réussi à me remettre un peu dans la télé.
T'as vu, hein, le samedi soir.
Ah ouais, c'était marrant. Ouais. Non, c'était un très beau concept, très bien exécuté, très drôle. Non, vraiment, bravo, chapeau.
Ah, oh, c'est génial.
Mais c'était à une époque où on pouvait un peu s'amuser encore en télé. Aujourd'hui, c'est plus compliqué.
Renversant, non ?
Benjamin Cap, enfin Ben Cap, merci d'avoir répondu aux questions de DLP.
Merci à Naya et toi, David, de m'avoir invité à travers cette interview. J'ai quand même remémoré des souvenirs fabuleux de ma carrière et de ma vie. Donc je suis très heureux d'avoir pu participer à cette interview qui m'a fait beaucoup de bien et m'a donné beaucoup de joie.
Bienvenue dans les jeux de vainqueurs. Pour cette dernière de la collection, en tout cas dans l'immédiat, nous avons choisi un maître S-jeu de A à Z. Ainsi, quoi de plus normal que de rendre de nouveau hommage à celui qui, depuis l'Académie des Neufs, il y a un peu plus de 40 ans, n'aura jamais vu sa carrière d'animateur de jeux TV placée en zone rouge. Certes moins populaire que Qui veut gagner des millions il y a 20 ans en France, et cependant tout aussi enflammant pour ses candidats, si ce ne fut plus encore. Chez nous, c'est la légende de la petite balle jaune John McEnroe qui anima ce jeu basé sur les pulsations cardiaques de ses participants, cependant qu'en France, la géniale tête de prod Hervé Hubert avait ainsi misé sur ce « Sacré Jean-Pierre !»
Beating the chairs, not as easy as it looks, but let's see if our next player has what it takes.
Ou comment tenter de remporter jusqu'à 30 000 euros en 7 ou 8 questions, en devant notamment pour cela maîtriser son rythme cardiaque sans jamais le faire entrer en zone rouge. Celle-ci était au départ déterminée par le rythme au repos du candidat, multiplié par 2, ce qui lui conférait une certaine marge, voire une marge certaine.
Vous êtes en zone rouge. Appuyez sur le bumper si vous voulez 30 secondes de repos, c'est parti.
Et histoire d'évidemment pimenter la chose, chacune des questions était l'occasion pour Jean-Pierre de diminuer le nombre référence de 10%.
Priscilla est hyper calme parce que vous étiez à 87 euros, vous êtes à un peu plus de 90, c'est super bien. Je réduis quand même de 10%.
Autant d'opportunités pour les plus émotifs de perdre leurs moyens face à la pression du plateau et de ses flammes réelles, de Jean-Pierre et de ses questions factuelles.
Eh oui, ça chauffe, hein.
Qu'elles fussent réalisées par Antoine Gallet ou Gabriel Coteau, les 201 zones rouges alternèrent dans The Chair, nom originel du programme, face à Jean-Pierre, anonyme et célébrité.
Salut, c'est Priscilla, je suis super heureuse de participer à Zone Rouge aujourd'hui.
Vendredi 25 novembre dernier, lors de son interview spéciale 75e anniversaire, Jean-Pierre nous confiait avoir pas mal souffert des effluves de gaz au cours des tournages, ayant pu lui donner quelques maux de crâne carabinés pour la bonne cause d'un jeu en filigrane vitaminé.
Je sais pas si tu te souviens, j'étais en hauteur par rapport au fauteuil.
Oui, absolument.
Dans lequel s'est installé le candidat. Et tout autour, il y avait des flammes qui partaient. Mais parmi ces flammes, il y avait du gaz liquide qui ne brûlait pas et qui retombait en gouttelettes. Et moi, j'inhalais ce gaz pendant tous les tournages.
Aïe, aïe, aïe!
Non, mais c'était pas drôle parce qu'il y avait un médecin qui était là.
Mais je ris pas.
Ah non, j'espère bien. Et j'avais mal à la tête, etc. Et
il
s'était pas rendu compte pendant le tournage qu'il y avait des dommages collatéraux, en quelque sorte, et que tout le gaz ne brûlait pas. Avec le reste, c'est moi qui me mettais dans le pif.
Un concept qui gagnerait à revenir sur les antennes du groupe TF1, mais il est vrai que celui-ci manque cruellement de dignes successeurs à un MC Jean-Pierre, définitivement de sa catégorie, le meilleur. Le 7 juillet prochain, découvrez votre nouvelle collection d'été, censée vous accompagner lors de chaque session DLP Vacances jusqu'à Paris 2024, illustre dieux olympiques. Uh-huh.
Depuis 75 ans environ, la télévision française toujours donna la chance aux chansons et mit les musiques au cœur de ses génériques. Du petit conservatoire de Mireille à The Voice, si la voix porte dans la petite lucarne, les notes également en cohorte y ont tout leur charme. Déportés au petit écran, DLP Vacances fait ses gammes et vous raconte la rencontre entre des musiques et des téléspectateurs ayant à cœur d'associer leurs émissions à des émotions. Le 23 juin 2003, à 22h40, débarqua sur TF1 un ovni, objet venu nous intriguer, qui allait révolutionner l'industrie des secondes parties de soirée en termes de divertissement. Animé par l'espiègle et survolté Sébastien Coé, ce dernier semblait, avec ses complices Cartman, Cécile de Ménibus, Jeff et Miko, avoir trouvé la méthode pour nous scotcher de rire à travers son discours. Raison pour laquelle Music Zacker s'arrête cette semaine avec bonheur sur le générique de la méthode Coé. Vendredi 17 mars, ici même, Sébastien fut le parrain du second anniversaire de votre mag média préféré et profita de l'occasion pour nous annoncer précisément le futur 20e anniversaire de son émission culte. Un double prime sur C8 et non sur TF1 ayant eu lieu les jeudis 27 avril et 4 mai, soit 13 en amont du 23 juin, qui scellait brillent avec le talent propre au bougre, 6 saisons inoubliables et plus de 260 émissions. Avec Drôle de Petit Champion, la méthode Coé est l'autre divertissement dont je sais gré au duo Pascal Bataille-Laurent Fontaine, aux autres produits plus... dérivants. Philippe Colpart, alias Philippe Swan, est l'auteur, compositeur, interprète, également artiste peintre belge, auquel l'on doit l'excellent générique entraînant de la méthode Coé du 23 juin 2003 au 18 décembre 2008. Beaucoup de cuivre, une belle présence du synthé, de la guitare basse, de la batterie et un BPM à réveiller un mort, tels furent les ingrédients de cette trentaine de secondes au rythme frénétique et très cathodique pour une coprod Laurie Bell Be Aware aux 4 millions de téléspectateurs aux envies pas toujours très... catholiques. 20 ans après, encore merci à l'énergie musicale du générique de Philippe Swan, signe de l'énergie multiaxiale de Sébastien Coé. Le 7 juillet prochain, comme lors de chaque été de l'hémisphère nord depuis déjà 2 saisons, les tubes de télé. Et l'info TV de la semaine cède ponctuellement sa place, comme régulièrement dans Dieu mandé le programme ou DLP Vacances, à une info radio, avec les nouvelles audiences FM annoncées par Mediamat le 20 avril dernier et notamment relayées par les équipes de Jean-Marc Morandini.com. Au rayon des bonnes nouvelles, dans la famille France, je salue Inter, égale à elle-même, que dis-je, s'étant surpassée avec une nette hausse de son auditoire sur 1 an. Ce qui est loin d'être le cas pour ses 2 autres petites sœurs publiques, France Info et France Bleu. Tandis qu'Europe 1, en attendant l'arrivée du pro Pascal à la rentrée en transfuge de RTL, semble se satisfaire de simplement contenir hémorragie pourtant FMO tragique, la dite RTL et RMC continuent de perdre de leur superbe dans un univers de plus en plus funèbre. Vu depuis Los Angeles, cette agitation parisianiste perpétuelle a véritablement quelque chose de paradis artificiel. Le beau de l'ère FM étant en somme de plus en plus superficiel. Vive Cohen, Dussard et Vandel, Salamé, Expert et Revel, et vive les propriétaires ou actionnaires de stations FM plus ronflantes que rebelles, visiblement persuadés qu'auditeurs riment avec « idiot visuel ». Puissent-ils ainsi tous se gargariser de leurs chiffres basés sur un panel, nous sur le digital, les plus d'1 200 000 auditeurs hebdomadaires que vous êtes dans 209 pays et territoires à travers la planète, sont eux bien réels.
Demandez le programme.
Hors changement, DLP Vacances vous suggère ce samedi 6 dès 21h10 sur France 2, les enfants de la télé, la grande soirée. De Patrick Bruel à Christine Bravo, en passant par Dave, la chef Hélène Darroze, Matt Pokora et Elise Moon, Laurent Ruquier devrait garantir à ses invités, comme à leurs téléspectateurs, divertissement et bonne humeur. Ce dimanche 7 sur France 2, le trio gagnant Gérard Houry, Louis de Funès et André Bourvil joue sa carte maîtresse avec le Cornio. Après leur jackpot du 9 avril dernier, avec les 3 680 000 téléspectateurs et 20,5% de part d'audience, source Mediamat Médiamétrie, de La Folie des Grandeurs, Gérard Houry et Louis de Funès persistent et assignent Bourvil derrière le volant de la Cadillac de tous les dangers. Comme quoi, il n'est pas si coun-coun qu'il en a l'air. Et ce vendredi 12 sur France 3, Laurent Delahousse rouvre ses archives secrètes afin de revenir sur la face cachée de nos idoles. De Daniel Balavoine à Mike Brandt, via Sheila et Michel Sardou, images inédites et témoignages nous racontent, sous un angle qui se veut différent, toutes ces icônes qui, depuis plus de 60 ans, ne nous laissent, elles, indifférents. Petit clin d'œil enfin à l'excellent reportage d'Aurélien Chapalin et Éric Declémy, diffusé le 19 mars dernier dans le magazine dominical 7 à 8, présenté par Harry Roselmack, avec la complicité d'Audrey Crespo-Mara. Un 52 minutes édifiant, faisant écho au reportage de Claire Vérove, Mathieu Boisseau et Noé Salem dans le 20h de France 2 du 21 avril dernier, à propos de l'opération conjointe police-gendarmerie, censée conduire à l'expulsion de 10 000 immigrés comoriens irréguliers. Les pouvoirs publics en général et le ministère de l'Intérieur en particulier ont toujours été les champions des éléments de langage, avec leur fameuse déclaration, je cite, « Il n'y a pas de zone de non-droit au sein de la République française ». Fin de citation. Comme aime à le dire mon copain et néanmoins confrère Gilles Desgras, je cite, « sans commentaire, mais commentaire ». Fin de citation. Comme si la situation intérieure française n'était déjà assez parlante, l'on découvre avec atterrement combien la loi de la jungle règne sur le 101e département de France, le plus pauvre d'entre eux et visiblement le plus incontrôlable également. Milices armées, jeunes semant la terreur sur les routes comme dans les transports en commun, forces de l'ordre débordées, quoique pleines de bonne volonté et de courage, il faut bien l'avouer, sommes-nous encore seulement en France, à Mayotte ? Un documentaire qui en dit long sur l'état sociétal de notre douce France, et encore plus sur son efficience politique ultramarine. Au moment où nous enregistrons, les journaux télévisés qui suivront nous auront informé de l'état d'avancée de cette opération vaine, car rencontrant de toute évidence la désapprobation du pouvoir comorien en place. L'immigration subie étant de toute manière un problème désormais planétaire, cette poudre aux yeux semée in fine ou non à Mayotte se révélera au bout du compte de la gnognotte. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le performait si merveilleusement notre Johnny National, pour lequel vivre pour le meilleur n'était une vaine promesse, quelques cris de joie pour allumer le feu de la vie donnent également l'envie d'entendre. Heureux anniversaire ce lundi 1er, Joanna Lumley fut dans Le Loup de Wall Street aussi absolutely fabulous qu'en Purdy dans The Avengers. Françoise Laborde, en chef de service économique comme en Europolitique, sa vie journalistique, Françoise Laborde telle le refuge contre toute forme de maltraitance de manière méthodique. 70 fois merci d'avoir su écrire combien ? C'est encore mieux à 50 ans. Et Arnaud Poivre d'Arvor, dans l'univers Far West des productions TV, est à la pointe des indices d'enquêtes achevées. Ce mardi 2, Paul Lederman, leader man des carrières qui durent. David Suchet, Sir David, est désormais Suchet de Sa Majesté le Roi. Et Laurie Pester, de feu, de l'amour et de glace, même devant les portes du soleil, en elle comme en nous, la magie de Disney sommeille. Ce mercredi 3, Martin Bouygues, en véritable héritier de son père, champion de la construction du succès numéraire. Et Nathalie Renoux, de Bloomberg TV au groupe M6, minute par minute, Nathalie Renoux avec le charme de l'exercice. Ce jeudi 4, Yves Lecoq, imitateur de génie, animateur châtelain aux plus de 40 ans de télégénie. Ce vendredi 5, Chantal Latsou. 75 fois merci de votre immense talent de comédienne, là-dessus, aucun doute pérenne. Nicolas Demorand, bravo pour vos dernières audiences sur Inter, avec la non moins excellente Léa Salamé, vous qui en presse écrite, radio et télévision, ne vous serez jamais cramé. Et Virginie Efira, pour cette actrice lumineuse de rire et de drame, sans doute nullement 20 ans d'écart entre deux Césars, d'autant qu'elle n'a rien à perdre à revoir Paris, toujours à la recherche de sa nouvelle star. Ce samedi 6, Christian Clavier, Cocorico joue sur le sien de clavier depuis 50 ans une irréductible musique cinématographique entre comique et colérique. Lucien Jean-Baptiste, réalisateur au talent certain, dont le BDE en communication et action publicitaire n'est plus qu'un souvenir lointain. Et Cyril Heldin, face à Heldin, reporter, 50 fois merci d'avoir également incarné l'informan orateur. Et ce dimanche 7, Philippe Geluck, à bon chat, bon des idées, rata. Qu'aucun dessin de Geluck ne rata. Sylvain Augier, possède de la survie mode d'emploi, cet homme qui en radio comme en télévision, son affabilité déploie. Véronique Jeannot, madame le consul, ne saurait garder souvenir doux amer d'un cheminement artistique aux plus de 40 années de carrière. Et Sophie Talman, si les années bonheur de Sophie sont en partie liées à un mois de décembre cher au Miss, elles passent aussi par un octobre rose en pointe contre une maladie destructrice. Une pensée enfin pour le cultissime Hervé Bourges qui était né le 2 mai 1933. DLP Vacances sera de retour pour sa troisième saison le vendredi 7 juillet prochain. La semaine prochaine, Laurence Lemarchal, énergique cofondatrice de l'association Grégory Lemarchal, autrice de « Sous ton regard », sera l'invitée exceptionnelle de Diomandé le programme. Ce, à l'occasion d'une interview confidence, tout en amour et en tendresse, intitulée « Grégory, il aurait eu 40 ans ». Et nous consacrerons précisément notre dossier à l'association Grégory Lemarchal, qui depuis désormais plus de 15 ans veille au mieux-être des personnes notamment atteintes de mucoviscidose et de leurs familles, dans une structure d'accueil sise à Rueil-Malmaison, loin d'être dans une botte de foin, une aiguille. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram Diomandé le programme. À l'instar de Drucker à l'ouvrage, DLP Vacances est produit par Chronoson Corp Burbank, Californie et intégralement réalisé par Naya Diamond. Notre gratitude depuis la côte ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Katia Martin, Dundee, Infocom Web Service et Dave Marsh, Mr. Splat. Merci à Do, Azoulay, Berda et TF1 pour l'emprunt du thème de leur générique et à Alexandre Letraine pour son adaptation aussi magique que mythique. Bise de la capitale mondiale des médias à Kate, Sheena et Ramzi Malouki ainsi qu'à Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur précieuse confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble zappons le creux au profit de la crue. Vive les journées romaines de Nîmes jusqu'à ce lundi 8 mai dans les arènes de Nîmes. Vive tous à l'opéra au Palais Garnier de Paris les 5, 6 et 7 mai. Et vive la télévision pour le meilleur de ses fous rires. Pas vrai Bruno Carrette?
On essaie de le faire autrement. Non.
DLP, 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 tout tout doudou, tout doudou, DLP vacances.
Chronozone, le temps immédiat.
Bonjour, je suis Laurence Lemarchal, la directrice et la cofondatrice de l'association Grégory Lemarchal. Je vous donne rendez-vous vendredi 12 mai dans Diomandé le programme avec David et Naya à l'occasion du week-end anniversaire où Greg aurait eu 40 ans. On aura l'occasion donc de parler de la carrière de Grégory, quelques anecdotes aussi croustillantes du château de la Star Academy et de mes propres souvenirs télévisuels. N'oubliez pas, alors rendez-vous le 12 mai.
Merci d'avoir apprécié Diomandé le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.